Incarnation du divin dans notre vie quotidienne. Dans la première lettre de saint Paul aux habitants de Thessalonique, c'est-à-dire dans le document le plus ancien du Nouveau Testament, nous lisons la phrase célèbre, souvent entendue, peut-être aussi souvent méditée. Elle est incroyable. Elle dépasse toute notre capacité d'entendement, de sentiment, de cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Est-ce une exigence ou simplement une constatation? Dieu veut que nous devenions saints. Et s'il en est ainsi, alors, bien que toujours abasourdis, nous sommes confiants. Si c'est la volonté de Dieu, c'est non seulement possible, mais pour peu que nous ne disions pas non, bien plus que possible, que vraisemblable, c'est certain. Car la volonté de Dieu ne peut échouer. Mais que signifie en fait ce message ancestral, cette exigence ou constatation que Dieu veut que les hommes deviennent saints? Qu'est-ce que cette sainteté? Elle n'est pas un but, mais la conséquence, le fruit mûr d'un don originel, la grâce du baptême que régulièrement nous apprécions peut-être trop peu. Car chez nous, le baptême est souvent une affaire sociale. Le baptême est quelque chose d'incroyable. Il signifie qu'une créature, limitée, est par ce rite à la vie divine. Il fait que l'homme n'est plus seulement homme, mais qu'il est divinisé. Et la sanctification n'est que la fleur de cette première participation à la vie divine. Nous le savons, participer à la vie divine ne se fait que par le Christ, par le Fils de Dieu devenu homme. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. La participation à la vie divine se fait par et dans le Christ. Depuis le jour du baptême, nous sommes effectivement un autre Christ. Il est Dieu de par son essence. Nous sommes capables de cette participation à travers lui. La sanctification n'est donc pas l'apothéose de l'aspiration humaine, ni non plus une splendide isolation de l'extraordinaire, sublime. Séparée de la misère de ce monde, elle n'est pas distanciation arrogante vis-à-vis des soucis et besoins de cette terre et de nos semblables, éloignement sur le nuage rose d'une relation enivrante d'une âme n'ayant rien à voir avec le corps, avec un Dieu lointain. Pour nous, la sainteté est simplement vie humaine, mais guidée par l'Esprit de Jésus. Une vie humaine comme les autres, mais qui peu à peu atteint quelque chose, à savoir la perfection de l'amour. Savez-vous ce qu'est l'amour parfait? C'est l'amour sans une trace d'égocentrisme, dirigé vers Dieu et le prochain sans exception. Nous pouvons décrire ainsi ce fruit de la grâce baptismale. Est un saint, un homme qui a atteint l'amour parfait, parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit de Jésus sans opposer aucune résistance à cette conduite. La sainteté n'a rien à voir avec les prouesses, avec des services extraordinaires rendus à l'humanité, à l'Église. Elle ne dépend pas de ce qu'on fait, mais de comment l'on accomplit les choses ordinaires. Dans la vie spirituelle, dans une vie qui se réfère intégralement à Dieu, l'important n'est pas d'être original, mais que l'on fasse ce que l'on doit faire. Devant Dieu, il n'y a rien de grand ou de petit. Quand on lit certaines biographies de saints, aventureuses comme aucun roman ne l'est, on s'est fait peu à peu une idée de la sainteté. Dans l'ensemble, les saints ne se distinguent pas par des actions merveilleuses. Quand on regarde de près l'histoire de chaque saint, on constatera que de hauts faits n'en représentent qu'une petite partie, pour une période de temps de 60 ou 70 ans. Tout le reste était du quotidien. C'est là que nous trouvons ce qui est saint, non dans les actions d'éclat. Un dénominateur commun de tous les saints, ce qui est caractéristique chez eux, c'est que ce sont des hommes qui ont beaucoup prié, plusieurs heures par jour pour certains. Saint François de Borgia fut le grand organisateur des jésuites. Saint Ignace était un charismatique et un manager. On dit qu'il passait chaque jour 10 heures en prière. Tous les saints ont placé au cœur de leur propre histoire la prière, le dialogue avec Dieu. C'est ce qui fait la sainteté, non ce que l'on fait, ce que l'on atteint, mais que l'on vive sa propre vie en union constante avec Dieu. Saint José Maria, qui sur la terre entière a annoncé justement aux hommes dans le monde l'appel à la sainteté, a dit lui aussi que la vie entière devait et peut devenir un dialogue avec Dieu. Il faut prier pour obtenir cette grâce. Saint François d'Assise priait avec des phrases très brèves, répétées. Il disait en s'adressant au crucifix « Mon Dieu est mon tout ». C'est la phrase la plus célèbre que nous ayons de lui. Quelle vie heureuse nous aurions s'il était effectivement mon tout, y compris aux heures des difficultés, de la souffrance, des déceptions. Personne n'a eu autant de déceptions que Jésus lui-même. C'est les élus, les 12 l'ont abandonné. Celui qu'il avait destiné à être le roc de l'Église l'a renié 3 fois et l'un de ses 12 l'a trahi. Vivre uni à Dieu, ce n'est pas une question de réflexion, mais il y a une union qui ne passe pas par la réflexion, par la conscience. Qui a été amoureux une fois sait ce que je veux dire. On ne pense pas constamment à l'être aimé, mais le cœur est en union constante avec lui, séparé de lui par aucune activité. Vivre pour Dieu et avec Dieu la vie quotidienne, c'est possible parce que nous avons reçu au baptême cette grâce, avoir part à la vie de Dieu. C'est pourquoi nous portons en nous, souvent inconsciemment, quelque chose de divin sur les chemins quotidiens de la terre. Un homme qui vit dans cette union à Dieu fait ce qu'il doit faire, mais avec Dieu, il ne peut rien faire de bâclé. La sainteté n'est pas quelque chose qui vous fait décoller de ce monde, mais au contraire quelque chose qui rend ce monde humainement, techniquement, professionnellement meilleur. La loi principale de notre vie reste la loi d'incarnation qui a fait entrer l'Éternel en ce monde. Il nous faut participer à cette divination du monde, par une union à Dieu toujours plus intime, plus constante. Y a-t-il un moyen d'être lié à Dieu de sorte qu'il devienne vraiment mon tout? Le moyen le plus important après le baptême et l'Eucharistie. Cela signifie que l'Esprit de Jésus, le corps de Jésus, le cœur de Jésus deviennent ma chose, que l'on devient concorporalis, c'est-à-dire qu'on est assimilé. L'Eucharistie est la plus haute union avec Dieu sur terre. On s'unit non pas seulement avec la spiritualité, mais aussi avec la corporéité de notre Seigneur. Nous vivons au quotidien, et même si nous ne le remarquons pas, nous constaterons à la fin ce que nous sommes, des enfants de Dieu. L'incarnation n'existe que dans et par Marie. Allons à Marie afin qu'elle nous enseigne à réaliser l'incarnation du divin dans le gris de notre vie quotidienne. C'est le chemin de la sainteté. Chasteté fondée sur l'amour. Considérons la chasteté avec tranquillité et occupons-nous-en soigneusement. car la submersion par cette sexualité débridée devient de plus en plus insupportable. Elle a pénétré toutes les sphères de notre société. Elle détruit de nombreux mariages, rend des jeunes et même des enfants accros au plaisir et étouffe le cœur de la vie chrétienne en rendant l'homme aveugle pour la contemplation dans le monde. Nous avons la mission d'appréhender et d'exposer la chasteté de façon authentiquement chrétienne, car depuis toujours, on a recouvert cette vertu positive dans son essence d'un voile obscur d'anxiété et d'intrusion, d'étroitesse et de rigidité, un voile qui déprécie le sensible, le corporel et en particulier le sexuel comme étant le plus dangereux, le plus menaçant, le plus bas et le plus avilissant de notre existence. Comment cela a-t-il pu se produire dans le christianisme qui comprend l'homme dans son entièreté comme créature et image de Dieu, qui est bon donc à tous égards? Plus encore, le noyau de la foi chrétienne consiste en ce que le salut et la plénitude éternelle de l'homme sont le fruit de l'incarnation du Fils de Dieu. D'où le vieil adage chrétien « caro est cardo », ce qui veut dire que dans la vie chrétienne, tout tourne autour de la chair. Même si en réalité aucune véritable vertu ne peut être surestimée, ceci est arrivé souvent et singulièrement à la vertu de chasteté. Celle-ci a été non seulement placée au centre de la vie morale, et par là aussi au centre de l'attention d'hommes pieux, jeunes ou plus âgés, mais a été aussi élevée au rang de vertu principale, et même de vertu par excellence, et présentée comme telle. Dans certains cercles pudibonds de la société du XVIIIe et du XIXe siècle, une jeune fille vertueuse signifiait simplement chaste et avoir eu de mauvaises pensées voulait dire dans la langue de nombreux pénitents des pensées impures. Cette surestimation de la chasteté était basée sur une fausse raison qui en faisait une erreur de jugement. La raison en était l'idée, exprimée ou pas, que la réalité de la création, sensible en général, surtout le non-spirituel dans l'homme, est mauvaise. En un mot, la fausse raison en est un manichéisme déclaré ou en règle générale non déclaré et même inconscient et non volontaire qui représente cette vision païenne du monde bien connue qui dans le domaine chrétien a inspiré de façon plutôt implicite les hérésies des montanistes où on les nomme ainsi tel que Tertullien en fut un dans la dernière étape de sa vie, des cathares et d'autres hérétiques spiritualistes. Ce processus est clairement expliqué dans l'excellent livre de Joseph Pieper, traduction en deux mots, discipline et mesure, du mot temperantia. Rafraîchissante et en harmonie avec la foi, apparaît en revanche la doctrine des vertus du docteur de l'Église Thomas d'Aquin et des grands théologiens et saints de l'Église catholique après lui, qui ont toujours qualifié la chasteté de vertu indispensable pour tout chrétien, mais ne l'ont jamais mise en avant comme la première et la plus importante. À l'opposé des sombres objurgateurs, se répandant en descriptions nombreuses et détaillées sur tous les types et degrés de l'impureté, Saint José Maria n'a jamais voulu parler d'impureté, mais il au contraire mis en avant la positivité de la chasteté. Il soulignait la hiérarchie des vertus où la chasteté, à vrai dire, n'est aucunement à la première place, mais vient après les vertus théologales, foi, espérance, charité. Mais même parmi les vertus cardinales, elle se place après la prudence, la justice et la force en tant que partie de la temperantia, c'est-à-dire de la discipline et mesure. Finalement, elle est, pour le dire avec José Maria, un don de Dieu qu'il accorde à ceux qui l'en prient avec humilité. Il est certain que chaque chrétien doit nager à contre-courant, puisque dans notre société infestée d'un total relativisme, il n'y a plus de valeur absolue. Dans ce vaste désert, n'ont de valeur que le plaisir ou la souffrance. Le plaisir à obtenir à tout prix, la souffrance à éviter à tout prix aussi. Au travers des médias, nos contemporains sont ensorcelés par des mensonges avérés sur la sexualité. On affirme que dans ce domaine de la vie, tout se remet en place de soi-même, s'y règne une permissivité sans limite et qu'est enfin surmontée la chasteté qu'on vilipende comme dissimulation hypocrite, petite bourgeoise ou victorienne. Ce n'est pas vrai. Dès que l'on envisage la réalité, apparaissent derrière, d'un côté, l'idéologie illusoire de Rousseau et d'un autre côté, la métapsychologie de Freud, qui sont toutes les deux complètement obsolètes. D'après la théorie purement physique des pulsions élaborée par la Bergaz à Vienne, on devrait laisser libre cours à l'hypothétique pulsion sexuelle afin qu'elle-même et son sujet, l'homme, trouvent l'équilibre. Cela non plus n'est pas exact. À notre époque de réhabilitation du corps et de l'unité psychosomatique de l'existence, cette interprétation mécaniciste d'une réalité humaine ne peut être qualifiée que de simpliste et d'arbitraire. Le concept même de pulsion comme force isolable, avec ses propres règles de jeu et ses réactions automatiques aux stimuli et signaux les plus divers du milieu, est difficile à maintenir. Déjà, au niveau de la corporéité, tout chez nous est humain et non animal, c'est-à-dire est au moins libre en son germe et met en œuvre toutes nos relations à nous-mêmes, à nos semblables et au monde. Le corps appartient à l'essence de la personne, comme le sexe à l'essence de la corporéité, et donc aussi à celle de la personne, comme essaie de l'expliquer infatigablement le pape Jean-Paul II. Le corps n'est pas une coquille ou une enveloppe de l'âme, une structure purement biologique, physico-chimique, mais une composante essentielle de l'homme. Tout chez nous est corps, tout chez nous est esprit. Seule cette unité substantielle constitue l'être humain. Cela a toujours été enseigné par le christianisme. De facto, parmi toutes les religions du monde, seul le christianisme approuve sans réserve le corps et croit que la matière est bonne. Et ce, d'autant plus que, comme déjà évoqué, Dieu lui-même, un jour, s'est fait chair, non comme un pseudo-homme, mais en tant qu'homme réel avec un corps humain créé et une âme humaine créée. Saint Thomas explique sans embâge que l'âme reliée au corps est plus parfaite que séparée de lui, et même plus semblable à Dieu, même si Dieu est pur esprit. C'est pour ça que nous croyons à la résurrection de la chair, car c'est l'homme intégral qui jouira de la félicité pour l'éternité. Comme aucune autre religion, le christianisme a glorifié le mariage, élevé qu'il est à la dignité de sacrement par Jésus-Christ. Saint Paul l'appelle un sacramentum magnum, un profond mystère. Saint José Maria a repris cette affirmation et a commencé à proclamer le mariage comme une vocation divine, comme chemin de sainteté. La chasteté est une vertu pour tous les chrétiens, avant, dans et après le mariage, justement parce qu'elle conserve l'unité de la personne. C'est par l'amour cependant qu'elle acquiert sa valeur, qui est la raison d'être de la chasteté, et même son unique légitimation. Saint Thomas d'Aquin l'a formulé de façon lapidaire. La raison de la chasteté consiste en l'amour et en les autres vertus théologiques par lesquelles l'esprit s'unit à Dieu. Saint José Maria l'écrit ouvertement. Sans charité, la pureté reste inféconde et ses eaux stériles transforment les ânes en un bourbier, en un marécage immonde qui exhale des miasmes d'orgueil. Effectivement, Ni la simple continence, ni l'intégrité du corps n'ont en soi une signification positive, mais au contraire, l'attitude pleinement aimante et le comportement de toute la personne humaine. La vraie chasteté conserve l'unité de la personne pour Dieu et le semblable, en empêchant tout isolement et autarcie du pulsionnel. En ce sens, l'union sexuelle entre l'homme et la femme dans le mariage peut être plus chaste que la continence, de fait reposant sur des motifs égocentriques tels que l'orgueil, des sentiments d'infériorité, la peur du don de soi, l'égoïsme, etc. L'absence de chasteté est toujours une expression d'égocentrisme. L'amour exige le don de soi total, qui libère de cet égoïsme unilatéral ou mutuel que la propagande érotisante vante mensongèrement comme saine satisfaction naturelle en en faisant une obsession plus que répandue. Comme dans tous les mensonges séduisants, il y a aussi en celui-ci un grain de vérité, à savoir que l'éros en soi, abstraction faite d'aberrations et de dérèglements dévoyés, est normal et sain. Le mensonge réside dans l'affirmation que toute satisfaction du désir sexuel est saine, normale et honnête. C'est une pure aberration. Toute forme d'intempérance et de débordement conduit manifestement, au contraire, de la santé, de l'équilibre intérieur et de l'honnêteté, à savoir aux multiples et divers types de névroses. En ce monde, tout bonheur s'achève par le renoncement, et tout homme sensé doit respecter des principes particuliers afin de réguler sa vie et sa pulsionalité, c'est-à-dire lui donne forme humaine. Le principe chrétien est certainement strict, ou bien le mariage, ou bien l'abstinence complète. Mais si nous nous y tenons, nous est octroyé, du moins le croyons-nous, une aide qui nous facilite la mise en pratique et qui sinon ne nous aurait pas été donnée en partage. Celui qui essaie de mener une vie de foi, qui voit dans les hommes des êtres faits à l'image et ressemblance de Dieu, qui s'efforce de vivre l'amour chrétien sans exception, en commençant par le prochain jusqu'à l'ennemi, trouvera aussi la mesure, l'ordre de la raison dans le domaine du sexuel. On a demandé au psychanalyste bien connu Sigmund Freud si la chasteté pré-matrimoniale, matrimoniale ou définitive dans le célibat, librement choisie, pouvait mettre en danger la santé physique ou mentale. Il a répondu très clairement « Non, mais elle doit reposer sur une juste motivation religieuse en dernière instance. Le chrétien conséquent dispose pour cela des motivations les plus élevées, les plus fortes, les plus efficaces, car conforme à la grâce du baptême, il s'efforce de correspondre à l'appel universel, à la sainteté, de maintenir en éveil la conscience de la présence de Dieu dans le temple de son corps, de vivre la joie, la liberté, la confiance des enfants de Dieu. Il sait que le don de soi dans l'amour fait sauter la carapace de l'égocentrisme et qu'en conséquence, selon les circonstances, la chasteté peut être douloureuse et même devenir un tourment auquel chacun aimerait échapper. C'est ainsi que, lorsque Jésus parla du mariage, les disciples s'exclamèrent « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Jésus leur dit « Tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux seulement à qui cela est donné. » Cela veut dire que la chasteté sous toutes ses formes est une grâce que Dieu accorde à ceux qui la lui demandent humblement. C'est justement un signe de maturité spirituelle, d'avoir reconnu cette nécessité de la grâce, étant présupposé toutes les mesures et efforts raisonnables, comme le décrit saint Augustin dans ses confessions. Aimant la vie heureuse, je redoutais de la trouver là où elle réside, et c'est en fuyant loin d'elle que je la cherchais. Car je pensais que je serais trop malheureux si j'étais privé des étreintes d'une femme. Employer le remède qu'offre ta miséricorde pour guérir cette infirmité même, je n'y songeais pas, car je n'en avais pas fait l'expérience. Je croyais que la continence relevait de nos propres forces, de forces que je ne connaissais pas. Et j'étais assez sot pour ne pas savoir que, comme il est écrit, personne ne peut être continent si tu ne le lui donnes. Et certes, tu l'aurais donné si de mon gémissement intérieur j'avais frappé à tes oreilles et si d'une foi solide j'avais jeté en toi mon souci. En guise de conclusion, disons-le de façon brève et concise. La chasteté n'est pas la première des vertus et elle ne doit pas se convertir en une obsession. Mais le Christ la demande et il donne son aide parce qu'il connaît cette faiblesse généralisée. Il a pardonné sur le champ les péchés dans ce domaine, mais il n'en a pas pour autant rabaissé ses exigences. La chasteté est un dur chemin vers un doux but au service de l'amour. Nous devrions tous y penser avec saint Augustin. Dieu n'exige jamais l'impossible, mais en demandant, il nous exhorte à faire ce que nous pouvons et à demander ce que nous ne pouvons pas. Ce principe mène à cette prière de demande bien connue du docteur de l'Église, Augustin d'Hippone, « Donne ce que tu exiges et demande ce que tu veux ». Dieu qui dort dans le bateau de l'Église. Le Seigneur monta dans la barque, suivi de ses disciples. Survint alors dans la mer une agitation si violente que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant donc approchés, ils le réveillèrent en disant « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, se dressant, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'admiration, ces hommes se dirent alors « Quel est celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» L'histoire du salut ressemble à ce périple en mer décrit par saint Matthieu. Elle est tempétueuse, mais avec à son bord Jésus, le Dieu devenu réellement homme. Seul celui qui croit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il nous accompagne depuis maintenant 2000 ans sur notre pauvre barque peut vivre et entreprendre ce voyage à travers le temps. Ce ne sont que peu d'années, sans préoccupation et ce toujours. Le bateau, l'embarcation, la barque fragile sont les meilleurs symboles de notre communauté de vie avec Jésus, dont l'incarnation a fait une communauté avec Dieu. Ils sont images d'une gloire, exprimant aussi bien l'incarnation de Dieu que la divinisation de l'homme. Dans la nuit et au travers de la nuit de l'histoire, seule l'auto-communication de Dieu, seule la foi dans l'Église nous font continuer de naviguer. Il faut reconnaître que tous, les croyants et les non-croyants, voyagent sur le même bateau et souffrent du même mal de mer. C'est la nuit et on scrute constamment l'horizon avec inquiétude. Si d'aventure apparaît une claire lumière qui puisse nous tranquilliser, mais nous savons très peu. D'où venons-nous? Où allons-nous? Est-ce un homme de l'art qui dirige le voyage? Qui connaisse vraiment la route et puisse la contrôler et la corriger? La vie entière est-elle une absurdité, un mouvement aveugle? Quelqu'un tient-il réellement la barre? On peut parfois répondre à ces questions inquiétantes avec un oui tranché. D'autres fois, nous nous sentons complètement déçus. Les intellectuels, membres de notre équipage, nous disent en confidence qu'il n'y a pas là vraiment de guide, que les historiens n'ont jamais établi que l'histoire du monde obéisse à une conduite sensée. Assez souvent, de célèbres sages parmi nous cessent de ramer et nous murmurent à l'oreille avec une ironie méchante la question de s'il vaut la peine de peiner laborieusement comme Sicide, comme d'innocents forçats dans un camp d'extermination contraints de travailler. Ne serait-ce pas plutôt intelligent de repousser tout effort, d'observer les étoiles fixes de notre ciel sans chemin ni sens? Car notre vie n'est au fond qu'une course contre la mort. Philosopher, c'est-à-dire faire des considérations sur la vie, signifie en fait, selon l'opinion d'antiques érudits romains comme Cicéron, tout simplement « commentatio mortis » ou selon la formule d'Épictète « apprendre à mourir ». Ils disent « Certains aiment conduire des procédures juridiques, d'autres échafaudent des théories. Si tu veux devenir sage, apprends à mourir. » Mais alors que les rares penseurs ne cessent de jouer les Cassandres, la plus grande partie de l'équipage continue de ramer, se console avec des rêves de félicité, d'époque à venir, à la paix définitive, sans souffrance ni peine. Mais les songes sont mensongers, et c'est ainsi que les contes s'effondrent quand la tempête se lève, que les vagues menacent d'engloutir le bateau, que la peur du naufrage se répand alors que de terribles conflits éclatent parmi l'équipage, de sorte que notre embarcation ne cesse de se remplir du sang versé. Quelques compagnons montrent une étrange assurance, insensée en fait. Ils affirment connaître exactement le point de départ et le but du voyage. Ils parlent même de celui-là, qui vit parmi nous, et nous serait vraiment semblable, et différent cependant de nous tous. Dieu lui-même, disent-ils, s'est embarqué avec nous, mais qui, même s'il dort visiblement, dirige cependant le voyage avec sa sagesse insondable, décide de la direction du chemin. D'autres pensent que cette affirmation est arbitraire, privée de tout fondement, car si un tel autre se trouvait à bord, il devrait se faire remarquer, au moins au temps de grande détresse. Mais ceux qui croient en sa présence répondent qu'il travaille de façon cachée, que simplement nos yeux sont devenus aveugles et nos oreilles sourdes. Sa présence ne se fait évidente qu'à ceux qui savent aimer. Saint Jean l'avait dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu ». Le sens de cette aventure réside justement dans l'amour envers nous qui fit de lui un pèlerin et dans l'amour que nous pourrions lui manifester en chemin. Car Dieu est amour et l'unique sens de notre existence en fait serait que nous apprenions à aimer, une rude affaire. Il ne s'agit pas d'un quelconque type de sentiment, de passion, ni non plus d'une activité de nature humanitaire, mais d'un amour qui descend en fait de Dieu, nous emporte et retourne à Dieu. Un amour envers ce Dieu qui se tient infiniment haut au-dessus de notre petite histoire et dont la toute-puissance embrasse la rive de notre départ, le débarquement définitif tout comme le bateau et nous tous. Comme l'a dit saint Paul en s'adressant aux sages grecs sur l'aéropage, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. À l'intérieur de cette société de voyageurs qui marchent, les chrétiens constituent donc un groupe qui ne cesse jamais de ramer. Au contraire, c'est avec élan et joie qu'ils se donnent de la peine pendant le voyage, car ils savent que leur travail a toujours un sens, qu'il n'y aura pas de naufrage, et que si quelqu'un, en raison d'une escale provisoire gratifiante, de la fatigue ou du sentiment d'inanité des efforts, aimerait se reposer, il continue pourtant de ramer, parce que l'obtention du but nous dépasse et n'est déterminée que par Dieu, un Dieu qui habite au milieu de nous et qui un jour se montrera pour nous dire « Prenez possession du royaume préparé pour vous depuis la création du monde ». Alors tous seront frappés d'un étonnement inexprimable. Maints non-croyants tomberont dans le désespoir, mais certains d'entre eux entendront stupéfaits la parole de Dieu. « Viens, toi aussi, parce que lorsque j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'étais triste, tu m'as consolé. Et toi aussi, parce que tu as apaisé ceux qui se sont disputés. Et toi de même, parce que tu as tenu la place de celui qui était fatigué. Mais Seigneur, nous n'avons pas même connu. En vérité, je vous le dis, celui qui a pris sur lui le poids et les difficultés de ce voyage et qui a fait briller la lumière de l'espérance parmi ses compagnons ou a promu l'amour parmi les hommes, il a préparé le dernier et ultime débarquement. Entrez dans la joie du royaume de Dieu. Le Christ qui ne cesse pas d'agir en ce monde et ne cesse de souffrir avec nous, connaît le cœur de ses coopérateurs, pas seulement à la fin des temps. Entre-temps et en cours de route, la tâche des chrétiens est fixée. Nous sommes ceux qui doivent faire s'élever au-dessus de la peur le cri de l'espérance. Notre péché le plus grave est le péché contre la foi, la méfiance, la tristesse, le découragement, le laisser s'abîmer dans la peur. Non pas que nous ne croyions plus, mais nous sommes gens de petite foi, les croyants étriqués, d'une foi pitoyable, dont le Seigneur a maintes fois fait le reproche aux apôtres. On peut sauvegarder les formes traditionnelles de la foi, mais non la plénitude, l'engagement, la confiance et l'enthousiasme qui sont siennes. De nombreux chrétiens, effectivement, à l'heure du danger et du risque, ne montre même pas cet équilibre et cette sérénité que certains non-croyants irradient. Beaucoup trop perdent l'enthousiasme de la foi vécue et éprouvent anxiété et scrupules au lieu d'avoir le courage de faire front aux tempêtes du monde. On croit en Dieu, mais bien trop peu en ce Christ endormi qui voyage avec nous. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Tel fut le reproche de Jésus. Pourquoi avez-vous si peu de foi? Pourquoi vous laissez aller à déprimer quand la dépression règne tout autour? Vous à qui j'ai confié les secrets du Père Céleste, à qui j'ai révélé l'absolue sincérité auprès de lui. La peur peut être évidemment un pur bouleversement de la sensibilité, ni bonne ni mauvaise en soi. Elle peut effectivement mener au désespoir, mais aussi à la foi. Le Dieu qui dort dans la barque permet que nous tremblions comme Jésus, qui éprouva dans le jardin des Oliviers peur et répugnance, et qui sur la croix fit monter vers le Père le cri de sa terrible solitude « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'important n'est pas d'éprouver ou pas de la peur, mais ce qu'on en fait. L'un doute de la bonté du Tout-Puissant, un autre blasphème et profère des jurons, un autre devient cauteleux, cultivant cette prudence de la chair dont se moquent même les non-croyants. Il parle du règne de Dieu, mais il court après les sécurités qu'offre le règne de ce monde. Ils affirment que Dieu dirige l'histoire du monde, mais ils agissent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Les disciples crièrent à l'aide et réveillèrent le Seigneur. Certains mystiques d'origine allemande ou espagnole décrivent justement la vie de prière comme une lutte avec Dieu. Les disciples ont eu peur, ont fui, l'ont même trahi, mais tous cependant sont morts martyrs, donnant leur sang pour témoigner de leur foi au Christ. La foi n'est jamais le produit de la peur, mais la peur devant le silence de Dieu peut se transformer en un aiguillon pour purifier la foi en abandonnant ses appuis terrestres, rationnels, humains, sentimentaux. Toi seul, tu es mon tout. En ces temps de totale sécularisation, nous pouvons considérer et vivre le silence de Dieu comme un appel à reconnaître et à accepter son absolue transcendance. On devrait se rendre compte qu'il faut adorer ce silence de Dieu, justement quand tout n'est que bruit assourdissant autour de nous. Son salut, il l'opère assez souvent, sans parole ni réclame. Mais quand il se lève et instaure paix extérieure et ordre, il n'est pas forcément reconnu comme seigneur de l'univers et de l'histoire. Mais quel est cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent? Car au commencement, la rencontre avec Dieu a lieu dans l'obscurité. On l'aime au début, d'une manière confuse, comme dans un miroir. Parfois, connaissance et amour mûrissent au cœur des tempêtes du monde, la foi commençant à scintiller comme une flamme fragile. Sainte Marie-Madeleine rencontre le Christ ressuscité, mais elle ne voit qu'un jardinier. Deux disciples font route avec lui vers Emmaüs sans le reconnaître. Tous, dans les tempêtes du monde, étaient à moitié aveugles, mais Jésus se révèle à eux car ils aimaient. La foi est une grâce que nous devrions sans cesse implorer, mais c'est un fait que nous avons reçu la foi sans mérite et en témoignant dans notre époque pourrait et devrait consister à faire serein et confiant, à toujours faire le bien à droite et à gauche, y compris dans la nuit la plus obscure et tempétueuse. Car nous le savons, il est monté dans le pauvre bateau de notre Église il y a 2000 ans. Nous ne cessons de nous tourner vers Marie, parce que cette incarnation de Dieu qui lui permet d'être parmi nous, d'assurer le poids de notre vie et le poids de nos péchés, cette incarnation de Dieu a eu lieu dans le sein de Marie. C'est un grand mystère, mais il n'y a pas d'incarnation de Dieu sans Marie. Et ainsi, elle est la mère de Jésus, la mère du corps du Christ, de l'Église, la mère de chacun d'entre nous. Elle est notre espérance.